Michel Candessus, bonjour, bonjour.
Bonjour, bonjour.
Soyez le bienvenu au petit déjeuner de Devenir pour Agir et merci d'avoir accepté mon invitation.
C'est un grand plaisir pour moi.
Merci à vous. Je voudrais commencer tout d'abord par une phrase de Socrate qui souligne « Le seul moyen de gagner une bonne réputation, c'est de vous efforcer d'être ce que vous désirez paraître. » Michel Candessus, qui êtes-vous ?
Écoutez, en tout cas, je ne connais pas assez Socrate pour m'aligner sur ce que je désirerais paraître. Probablement, tout simplement, parce que j'ai atteint l'âge où on n'éprouve guère le besoin de paraître et où on a plutôt tendance à regarder son intérieur, son intime, plutôt que l'image que l'on donne et même le souvenir de l'image que l'on a pu donner. Donc, Socrate aurait dû enfermer sa suggestion dans une certaine tranche d'âge. Enfin, on ne peut pas tout lui reprocher.
Exactement. Mais si vous deviez vous définir en un seul mot, lequel serait-il ?
Chrétien.
Chrétien, d'accord. Chrétien. Michel Candessus, très rapidement pour les milliers d'étudiants, d'étudiantes qui nous regardent, pouvez-vous nous donner les très grandes lignes, vraiment les grandes lignes, parce que vous avez, de votre carrière professionnelle ?
Écoutez, elle est longue, mais très, très linéaire finalement, parce que presque par choix, je n'ai fait que ce que l'on m'a demandé de faire. Et j'ai ressenti un jour l'intérêt, l'utilité, l'importance, la beauté du service de l'État ou du bien commun. Et je me suis tenu à ça. Alors ça a commencé, lorsque j'étais encore étudiant, je ne savais pas où aller, que faire, à part que, je voulais faire du bien, d'une quelconque manière. Il se trouve que j'étais étudiant au début des années 50, et à ce moment-là, vous le savez très très bien, le marxisme tenait le haut du pavé dans la vie intellectuelle de la France. L'histoire était entre les mains de professeurs marxistes. Sartre, par ailleurs, faisait la loi et les prophètes. Et peut-être que mes réflexes chrétiens ou l'inspiration de l'Esprit-Saint ont voulu que je rencontre trois maîtres à penser, qui ne m'ont jamais quitté. L'un, c'est Teilhard de Chardin. Il se trouve que nous avions des aumôniers jésuites à Sciences Po à l'époque, à ce moment-là. L'autre, c'est mon professeur d'économie. L'économie, à l'époque, était enseignée à la faculté de droit. Et, curieusement, et donc, j'ai rencontré là un génie, qui était François Perrou, l'inventeur de plusieurs théories importantes en matière de développement en particulier. Et j'étais fasciné par la pensée de cet homme, qui par ailleurs était complètement sourd. c'était Beethoven enseignant l'économie. Et troisièmement, Emmanuel Mounier et le personnalisme. Bien. Voilà pour l'arrière-fond intellectuel. Et puis, j'ai découvert là, alors que mon pédigré familial, je venais d'une famille de province très simple, très profondément chrétienne depuis des générations, mon christianisme était extraordinairement, alors pour le coup, on ne distinguait pas les tradis et les autres, mais il était profondément tradit, et j'étais un jeune homme pieux, et les pères jésuites qui m'ont gentiment accompagné m'ont, m'ont montré une toute autre dimension du christianisme et celle qui aujourd'hui m'habite encore. Et puis, c'était aussi le moment où deux événements mondiaux majeurs se dessinaient. L'un, c'était l'Europe et les premiers pas de l'Europe. 9 mai 50, Robert Schuman, et hélas, trois fois hélas, la guerre d'Algérie. Et ayant terminé mes études, j'ai été, dès la fin de mes études, envoyé, comme les garçons de ma génération, de ma classe, dit-on dans l'armée, en Algérie, puis revenir pour faire les écoles d'officiers de réserve. Et j'ai passé, je ne sais combien de mois, en Algérie, sur le front, si l'on peut dire. J'ai eu la chance d'être affecté, d'être officier du génie. Et donc, mon job était la construction de routes dans les monts de Tlemcen, dans une région contrôlée par le front de libération nationale, mais magnifique d'abord, et où ce travail de faire des routes, je dirigeais un chantier, rien de plus, m'a permis d'échanger beaucoup avec ces travailleurs. Ils étaient aussi menacés que moi, parce que enfin, nous, on nous tirait dessus, comme c'était des militaires, mais eux étaient condamnés à mort parce qu'ils travaillaient avec les Français. Donc il y avait une certaine solidarité. Alors évidemment, nous n'avions pas d'illusions. On savait qu'ils étaient nationalistes et qu'ils versaient le salaire que je leur versais à nos ennemis de l'époque. Mais j'ai eu là des conversations et des expériences qui m'ont profondément marqué. D'abord celle-ci, celle de conversations très fréquentes, parce que nous étions les seuls finalement à ne pas travailler, puisque nous étions les chefs, avec le vieux leader musulman qui conduisait les 50 ou 60 travailleurs qui venaient travailler sur notre chantier. Et au bout de quelques temps, nous nous sommes mis à parler de notre foi, la sienne et la mienne. Ça l'intéressait de savoir ce qu'était le christianisme, et moi-même, je devais tout apprendre de l'islam. Et ça a été à ce point profond que lorsque je l'ai quitté, il m'a offert la petite plaque de bois d'olivier sur laquelle il avait appris à écrire à l'école coranique.
D'accord.
Et il m'a dit, je te mets quelque chose qui résume nos conversations. Il n'avait pas employé le mot résumé peut-être, mais enfin, qui dit nos conversations. Et c'est ceci, où que tu regardes le visage de Dieu. Alors évidemment, quand vous entendez ça à 22 ans, ça vous pénètre. Et puis j'ai vu des cas où le sens de la prière des musulmans de base, combien il était fort, et j'ai vu aussi combien le sens de l'hospitalité était chez eux réel. Je ne serais pas en face de vous en ce moment si ma vie n'avait pas été épargnée parce que j'étais l'hôte d'un musulman. Alors que était dans une autre pièce la petite troupe qui devait attaquer mon poste.
Michel Montu, merci pour cette présentation. J'aurais aimé que nous approfondissions encore plus.
Alors, mais
je vais faire
le début,
des grandes.
Ce n'est qu'un début.
Ce n'est qu'un début. C'est pour ça que je vais. Permettez-moi de faire de grands sauts. Vous êtes ancien directeur du Trésor, ancien gouverneur de la Banque de France, et puis ancien directeur général du Fonds monétaire international. Et c'est à ce titre-là que j'aurais voulu approfondir des questions. Michel Grandessus, vous êtes un grand économiste.
Non,
quelle définition.
Ne dites pas ça, je ne suis pas un grand économiste. Je suis un économiste parce qu'en effet, j'ai géré l'économie mondiale pendant quelques temps. Mais non, je ne suis pas un théoricien. J'ai beaucoup écouté les théoriciens. Je les ai tous connu, et, mais non, ce qui m'intéresse, c'est l'agir.
C'est l'agir. Mais pouvez-vous nous donner votre propre définition de l'économie? Qu'est-ce que l'économie?
De l'économie ou de l'économiste?
De l'économie.
L'économie, c'est pas vous que je vais dire que le mot vient du grec et que c'est l'art de gérer son domestique, comme aurait dit Bossuet. C'est l'art de gérer les richesses du monde pour les faire servir à l'amélioration permanente de la condition humaine, sachant très très bien que l'homme est ainsi fait, qu'il y aura en permanence des hommes pour accaparer les ressources de l'économie vers eux, comme il y aura quand même des hommes et des femmes aussi qui comprendront que leur propre bonheur dépend du bonheur qu'ils créeront pour les autres, particulier pour les plus pauvres.
Alors on va reparler des grands thèmes là que vous abordez dans cette définition même de l'économie, mais que répondez-vous au grand économiste du 19e, 20e siècle, Alfred Sauvy, qui souligne que le but de l'économie n'est pas le travail, mais la consommation?
Eh bien, il se trompait.
C'est pour ça que je me permets de vous faire réagir.
Non, il se trompait. J'ai connu Sauvy, et c'est un admirable démographe, et il a beaucoup marqué précisément la génération immédiatement précédant la mienne. Et donc, mes maîtres ont été des disciples de Sauvy, et il a eu le grand mérite, même si je n'aime pas sa définition, il a eu le très grand mérite de convaincre les économistes de l'importance de la démographie, du facteur humain dans l'économie. Alors, il s'est trompé en se disant qu'évidemment, devant la misère du monde, essayons de faire en sorte que les gens puissent consommer. D'autant que la consommation alimente la production l'investissement, l'investissement étant égal à l'épargne, repose, vous connaissez le circuit économique, et donc, oui, la consommation c'est important, en particulier le fait de permettre aux plus démunis, aux gens qui, aux 100 millions de gens qui en ce moment sont menacés par la faim, de leur permettre par tous les moyens de consommer le minimum pour leur survie et pour leur propre progrès physique, intellectuel, spirituel. Je le dis d'autant plus volontiers et avec d'autant plus de conviction que je me suis beaucoup, beaucoup consacré au problème de l'Afrique, parce que c'est la misère à notre porte, et puis la France a des responsabilités tout à fait particulières dans ce domaine. Et je ne cesse de dire, vous trouveriez ça dans les 7 ou 8 dernières conférences ou exposés que j'ai fait ici ou là, je ne cesse de dire que nous devrions être obsédés par ces 60 millions d'enfants, c'était 60 millions avant la crise actuelle du Covid, qui sont en train d'être sous-alimentés pendant les 1000 premiers jours de leur vie. Eh bien, contrairement à un bel exemple que j'ai en face de moi, la plupart d'entre eux vont être diminués cognitivement parce que l'alimentation nécessaire ne leur a pas été dispensée au début de la vie. Et ceci est intolérable quand, en ce moment, dans des quantités de laboratoires dans le monde, on travaille à fabriquer l'homme augmenté. Augmenté, diminué. entre les deux la tâche de l'économiste pour répartir au mieux la richesse du monde.
C'est intéressant, Michel Condessus, parce que vous venez d'utiliser un concept qui m'est cher, d'autant plus que nous sommes dans un cercle d'anthropologie et de philosophie. Vous avez utilisé cette expression « l'économie humaine ».
Oui.
Quelle définition, ou quelle différence plutôt faites-vous entre l'économie humaine et l'économie sociale ?
Écoutez, l'homme n'est pas seulement un être social. L'homme est aussi un être culturel, un homme spirituel, un homme pour qui, même s'il doit avoir et s'il a les pieds bien enfoncés dans la glèbe maternelle, comme dit Peggy, il a aussi sa tête dans les étoiles ou dans la transcendance. Et cette transcendance l'habite, et l'économie ne doit pas faire foin de ça et s'arrêter au social.
D'accord, mais alors, je ne sais pas si vous serez d'accord avec René de la Tour du Pin, qui souligne qu'il y a trois écoles irréductibles en économie sociale. La première, celle où l'on considère l'homme comme une chose. La seconde, celle où l'on considère l'homme comme une bête. Et la troisième, celle où l'on considère l'homme comme un frère, dans lequel je suppose
moi,
que je, la dernière...
Vous avez deviné, bien évidemment. L'homme n'est ni ange, ni bête, et il doit considérer ses pareils comme des frères.
C'est ça. Michel Condessus, en préparant cette interview, je me suis posé la question, qu'est-ce que l'argent ? Finalement, l'argent, c'est à la fois impersonnel... Il est impersonnel, et cependant, nous le possédons.
Écoutez, nous pourrions parler des heures. J'ai passé des jours à discuter de l'argent, de ses méfaits, de ses bienfaits. On est pour, on est contre. Il n'y a qu'une seule réponse simple, et qui ne soit pas, qui ne risque pas de trop nous tromper. C'est un instrument. Et en soi, il est neutre. Le seul qui mérite l'attention, c'est celui qui l'emploie. Pour le meilleur ou pour le pire. Je suis très frappé quand j'ouvre une Bible, de voir, d'entendre les prophètes, Amos, Isaïe, mon très cher Michée, dire tout le mal de ceux qui accumulent à l'excès, de ceux qui faussent les balances, de ceux qui dévaluent la monnaie. J'ai trouvé ça quelque part aussi. Je lis notre Seigneur Jésus-Christ et la parabole des talents. Il ne dit pas de mal de l'argent. Il envoie même, il reproche à l'un des trois personnages, ou quatre, de ne pas avoir, puisqu'il savait quoi faire du denier qu'on lui avait confié, de ne pas avoir été déposé à la banque pour qu'il rapporte quelque chose. C'est notre Seigneur Jésus-Christ qui reconnaît l'argent comme un instrument qui peut servir en effet à placer une épargne et qui, à cet égard, s'il est neutre, il peut rendre néanmoins des services. Alors, en jambon 15 siècles, et je tombe sur Thérèse d'Avila, qui était une mystique silanée, mais qui était aussi une femme de lucidité. Et il se trouve qu'un jour où j'avais été à Manille, faire quelques reproches à cause de ces quelques propos démagogiques au cardinal, l'archevêque de Manille, le cardinal Sin, à l'époque. Et alors, bon, on avait discuté, on s'était un peu empoigné au début, et à un moment donné, il me dit, bon, maintenant nous sommes des amis, je dois vous dire quelque chose. Moi, je suis un des derniers prêtres philippins qui a été formé par des vieux religieux espagnols, juste après l'indépendance et que les Philippines aient pris leur indépendance par rapport à l'Espagne. Et ces prêtres espagnols nous apprenaient par cœur des sonnets de Thérèse d'Avila ou de Jean de la Croix. Et il y en a un, me dit-il, parce que mon nom en chinois veut dire argent et en anglais péché. Il y en a un qui m'a beaucoup frappé et que je me répète souvent, et il me l'a dit en espagnol, je vous le dis en français, l'argent, excrément du diable, pour cette terre, quel bon engrais. Mm-hmm. Alors l'excrément du diable est fait que nous avons la tentation permanente d'être d'un peu des accaparateurs et des faussaires de balance, etc. Mais nous devons savoir le faire servir comme un bon engrais entre nos mains.
Donc si je comprends bien, l'argent n'est ni bien ni mal, c'est celui qui l'emploie, c'est un instrument. Michel, donc en dessus, quel regard actuel avez-vous sur l'économie mondiale? Vous avez travaillé avec les plus grands de ce monde. Et avez-vous vu vraiment une différence dans les années dans lesquelles vous avez travaillé jusqu'à maintenant, cette crise économique dont tout le monde parle? Quel est votre regard actuel?
J'ai traversé beaucoup de crises. Et oui. D'abord dans mon pays, à un moment du revirement de l'économie française, après deux ans de François Mitterrand, la crise de 83, j'étais directeur du Trésor à l'époque, puis au Fonds monétaire international, j'ai eu à jouer un certain rôle dans la lutte contre le surendettement des pays les plus pauvres et inventer des leviers pour réduire celui-ci, l'annuler parfois, souvent même pour 40 pays. Puis j'ai eu à remplir quelques missions pour le secrétaire général des Nations Unies ou pour mon pays ici. Et j'ai vu et j'ai été très interpellé par les différentes crises financières que le monde a traversées, 1997, 2007, 2008, 2011, 2012, etc. Et aujourd'hui, de nouveau, recrise, et particulièrement menaçante, compte tenu du fait qu'il va nous falloir en même temps mettre en œuvre les objectifs du millénaire, essentiel pour l'équilibre du monde et pour le développement des pays pauvres, faire face aux conséquences ravageuses du Covid-19 dont on n'a pas encore mesuré toute la portée, combattre le réchauffement climatique, le coût en est colossal, et réparer le jour venu, j'espère bientôt, reconstruire l'Ukraine et réparer toutes les conséquences lourdes pour l'ensemble des pays du monde de cette crise. Or, le monde, jusqu'ici, s'est toujours refusé à mettre en œuvre, malgré les promesses, les tentatives répétées pour l'en convaincre, une réforme profonde du système monétaire international. Ayant été directeur général du Fonds monétaire, je n'ai cessé de faire des propositions à cet égard. Dans cette même pièce, nous nous sommes réunis en fin 2010 avec les plus grands responsables, j'étais le plus petit, de l'économie financière mondiale pour faire des propositions. Ceci a donné lieu, il y avait là le Paul Volcker, le géant de l'économie américaine, il y avait là, je cite lui, tous les autres étaient à peu près à ce niveau-là, et nous avons fait des propositions ensemble, très très novatrices. Volcker avait été d'un courage très grand. Ceci, j'ai réussi à le porter au niveau des chefs d'État et de le faire discuter par une réunion de chefs d'État du groupe des 20, donc les 20 principaux chefs d'État, à Canton, en Chine. Et là-dessus, l'Europe est tombée dans la crise de sa propre dette, et on a oublié. Et aujourd'hui, nous risquons à tout moment de voir les programmes qui sont mis en œuvre pour faire face aux quatre crises dont je vous parlais, dont le réchauffement climatique, ces programmes risquent à tout moment de dérailler à cause d'une crise financière, parce que les instruments, les leviers ne sont pas en place. Donc, je travaillais encore ce matin là-dessus, et nous allons avoir dans 10 jours à Paris une réunion de 130 leaders mondiaux du plus haut niveau, 3 chefs d'État, etc., pour essayer de leur vendre l'idée que c'est maintenant ou jamais qu'il faut consolider ce système si on veut faire face à la crise qui nous attend.
C'est passionnant, Michel Kandossu, mais qu'est-ce qu'une crise économique ? Parce qu'une crise, est-ce que c'est un...
Vous savez qu'en grec, le mot crise veut dire tamis, n'est-ce pas ?
Oui.
En chinois, c'est beaucoup plus intéressant. Pour écrire le mot crise, vous prenez 2 idéogrammes. Le premier, c'est celui du danger. L'autre, celui de l'opportunité. Et vous le mettez l'un sur l'autre, et vous avez le mot crise.
Excellent.
Et bien voilà, c'est ça une crise. Cette crise qui vient... parce que je crains qu'on ne l'évite pas, mais enfin, je ne veux pas être trop pessimiste, cette crise est un colossal danger. Ça peut être une opportunité, enfin, de consolider le système et de régler ces problèmes énormes qui sont devant nous et qu'on ne fera pas disparaître si on ne les traite pas, au fond.
Et est-ce que, finalement, vous et moi, toutes les personnes, ne sommes-nous pas les... premier responsable de la crise, de toute crise finalement.
Nous sommes des êtres responsables.
Oui.
Évidemment, par tout notre comportement, de par le moindre de nos gestes, nous avons un effet sur notre environnement, autour de nous, minime, certes, mais qui... Si nous nous laissions éduquer, si d'abord on nous éduquait au sens universel de nos responsabilités, nous pourrions aboutir à un monde meilleur. Mais vous êtes un enseignant, vous savez, vous connaissez les programmes de l'éducation nationale, vous voyez comment, finalement... l'enfant est certes formé, éduqué par l'éducation nationale le mieux possible. Je ne veux pas critiquer les programmes, les cursus, etc. Mais ils sont aussi éduqués par le cinéma, par les journaux, par la rue, par tout ce qu'ils entendent, tout ce qu'ils voient. Et évidemment, ce n'est pas toujours très éducatif.
Et alors, quelle philosophie ? La philosophie, c'est l'amour de la sagesse. L'économie, c'est l'amour de quoi, finalement ?
Pardon ?
La philosophie, l'étymologie, c'est l'amour de la sagesse.
Oui.
Et l'économie, on pourrait dire, c'est l'amour de quoi ?
Attendez, non. L'économie, c'est la gestion sage de la maison.
Je fais exprès de poser cette question, parce que...
Mais qu'est-ce que c'est que la sagesse ?
Finalement, la différence ou le lien, l'unité peut-être, qu'il y a entre l'économie et la philosophie.
Non, la sagesse est beaucoup plus vaste.
Oui.
Parce qu'elle s'applique non seulement à la gestion de mon domestique, mais elle s'applique aussi à mon auto-conduite.
C'est ça.
bon, le, et, 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 étant entendu que je ne peux pas être seul. Je dois être sage, je dois m'efforcer d'être sage dans mon milieu naturel qui est celui de l'échange avec d'autres hommes et d'autres autres femmes. C'est à cela que doit s'appliquer mon sens du bien et du beau et du juste.
C'est ça.
Ça vaut pour le domestique, l'économie, ça vaut pour l'ensemble de nos activités.
En préparant cette interview, je suis allé lire une partie du livre, peut-être, sans doute que vous l'avez lu, de « L'argent dans la culture moderne » de Georges Simmel.
Je le connais, mais je ne l'ai pas lu en entier.
Vous ne l'avez pas lu en entier, mais moi
c'est
non plus,
un très bon livre. Je crois savoir que c'est un très bon livre et je me reproche de ne pas l'avoir lu.
C'est un très bon livre et pourquoi j'en fais allusion maintenant ? Parce que vous me le faites penser quand vous dites que vous parlez de relations. À l'instant, vous venez de parler de relations. Et Georges Simmel souligne simplement que l'énergie de l'argent n'est rien d'autre que de la relation. Êtes-vous d'accord avec Simmel lorsqu'il souligne que l'argent permet donc
non, la je relation... ne prête aucune énergie propre à l'argent.
Oui.
Pour moi, toute l'énergie est dans la relation et dans la gestion ensemble de l'argent qui est mis entre nos mains. Voilà. Et c'est par là qu'on retrouve, je crois, le fond de la pensée de Simmel. Ça vaut pour les personnes, ça vaut pour les entreprises, ça vaut pour le monde. Un pays qui se refuse à gérer ensemble ses propres biens, et Dieu sait que nous avons eu l'occasion d'entendre ce genre de débat dans ce même pays il y a quelques semaines, un pays qui prétend être plus riche et mieux en fermant ses frontières, est un pays qui se suicide plus ou moins vite, plus vite en général qu'il n'aurait pu le penser.
Michel Gandossi, vous tout à l'heure, vous avez souligné que dans ce même salon, les grands de ce monde passent, il y avait des réunions internationales, vous êtes continuellement en relation avec les plus grands de ce monde, avec l'humain, avec l'être.
Moi maintenant.
Quelle définition donnez-vous de l'être ? Qu'est-ce qu'un
de
être ?
De l'être ?
L'être humain.
L'être humain, c'est une créature faite à l'image de Dieu, destinée au bonheur, à condition d'écouter la voix de sa conscience et d'avoir des échanges d'amour avec ses frères.
Et avec toute la très belle carrière que vous avez eue, Michel Gandossi, êtes-vous heureux ?
Ah oui, je le suis. Je le suis et je l'ai été dans la mesure même où j'ai eu des relations fraternelles avec les gens. Et je dis que ça a été un choix. Ma femme et moi, d'ailleurs, avons cette même conception des choses. Nous avons beaucoup été amenés à agir, c'est connu, peut-être un peu trop, nous avons toujours cherché à agir en équipe. Nous nous sommes connus, elle et moi, parce que nous étions ensemble responsables des étudiants cathos à Sciences Po. J'avais comme opposite number, si je puis parler en autre patois, Michel Rocard, qui était responsable des étudiants protestants, et nous faisions ensemble, lui avec son équipe, moi avec nous autres avec la nôtre. Nous nous sommes appris et enrichis dans le sens du travail en équipe et de l'engagement. Il n'a pas eu les mêmes engagements, mais nous avons vécu tout ça dans une grande amitié. La conviction qu'on n'est rien tout seul, sauf en face de Dieu, et qu'on peut, on ne peut vraiment faire des choses et prétendre changer le monde qu'à l'équipe. Et j'étais très fier quand quand j'ai fini le fonds, quand j'ai quitté le Fonds monétaire, parce que après y avoir démarré comme seul directeur général de cette institution, j'ai fini par convaincre il y a eu des bagarres incroyables avec le secrétaire au Trésor des États-Unis, ministre européen, d'avoir le droit d'avoir autour de moi trois collaborateurs avec lesquels je puisse en permanence travailler avec lui. Nous nous voyions tous les matins entre 8 et 9, et là nous mettions tout sur la table, rien n'était changé, n'était caché à qui que ce soit, et notre personnel s'en était très très vite rendu compte, et ça marchait, au point qu'ils appelaient cette équipe le Golden Team. C'est parce que nous avons travaillé comme ça qu'en effet, des choses se sont faites, et en particulier l'annulation de la dette des pays en développement au moment du jubilé de l'an 2000. Et je continue, nous sommes dans une formidable bagarre en ce moment, enfin un formidable travail de levier pour mettre en route une nouvelle réforme du système monétaire international. Et comme je suis chrétien, avec 12 amis, nous avons sorti un petit bouquin sur la transformation de l'Église catholique, la transformation de l'Église catholique. Et voilà, c'est comme ça que ça marche, après, je crois. Et je crois en tout cas que, évidemment, nous ne pouvons être que des leviers, avec le devoir de bien placer le levier là où il faut.
Oui, le devoir. Michel Condessus, malheureusement, l'interview va s'achever. Peut-être une toute dernière question aux milliers d'étudiantes et d'étudiants qui nous regardent aujourd'hui. Quel message d'espérance pouvez-vous leur offrir ?
Ah, écoutez, qu'ils sont notre espérance, qu'ils sont mon espérance. Je leur dis, le monde va mal et vous pouvez être soucieux sur ce qui vous attend. Parce que nous avons parlé de ces crises qui se sont accumulées et qu'il va falloir réparer, de celles qui nous menacent, comme la crise climatique, de cette instabilité du monde, de cette précarité du monde dans lequel vous entrez. C'est vrai, mais je vais vous dire quelles sont les deux sources d'espérance que j'ai et que je partage avec mes équipes d'amis, puisque nous voulons parler d'équipe. Je vois deux sources d'espérance, deux raisons de croire que le monde peut aller mieux. Ne soyez pas surpris. La première, ce sont ces gens que j'ai rencontrés dans les 150 et quelques pays que j'ai eu à rencontrer parce qu'il y avait des problèmes et il fallait aller voir sur place ce qui se passait. Bien dans ces pays, j'ai rencontré évidemment des dirigeants plus ou moins vertueux, plus ou moins crapuleux parfois, mais je me suis arrangé toujours ou presque toujours pour aller voir un petit peu ce qui se passait un petit peu dans les villages, dans les coins où les gens qui me recevaient ne m'auraient pas amené. Beaucoup de religieux en particulier m'ont permis d'aller rencontrer les plus pauvres. Et les plus pauvres qui, par eux-mêmes, sans secours ou presque de la puissance publique, de mécènes ou autres, prennent en main leur village, prennent en main les réalités auxquelles ils font face et cherchent à améliorer la condition des gens autour d'eux. Et il y en a beaucoup, il y en a partout. Et ces gens-là, lorsque vous les rencontrez, que vous méditez à ce qu'ils vous ont raconté, vous voyez qu'ils portent en eux la sagesse et la détermination nécessaires pour changer le monde. Et ils sont, à mon avis, c'est le petit nombre peut-être, mais un petit nombre tellement déterminé, tellement croyant en l'homme, qu'ils sont pour moi une source d'espérance très importante. Et puis il y en a une seconde. Restez assis. L'autre source d'espérance, c'est vous. Je suis très très frappé de voir que votre génération a bien réfléchi, a bien regardé ce que c'était qu'une globalisation fondée sur l'argent et la consommation. Et vous avez compris que ça allait à l'impasse. Vous avez compris, et je pourrais vous citer beaucoup de sages de différents pays ou de différentes régions du monde, que finalement la sobriété est un chemin de sagesse et de bonheur. La sobriété et le partage, le travail ensemble pour tâcher d'améliorer le monde autour de soi, ces valeurs-là, votre génération les porte plus que la mienne. Et je pense vraiment que vous avez découvert quelques-unes des véritables clés de l'avenir, et donc je vous encourage à continuer dans cette voie. Ne cherchez pas à vous enrichir en spéculant en bourse ou en jouant sur les marchés financiers, que sais-je, vous pourriez, mais regardez plutôt comment, en travaillant ensemble, en vous souciant de la meilleure manière de servir les autres, comment vous créerez votre propre avenir et votre propre bonheur.
Michel Grandessieux, un immense merci, quelle profondeur. Merci pour la profondeur de votre réflexion.
Une profondeur, mon cher ami. Il y a un peu d'expérience, simplement.
Non, mais vraiment, merci beaucoup. Je suis très profondément touché de cette interview. Merci de m'avoir reçu. Et permettez-moi de terminer cette interview par un très grand philosophe spirituel, Saint Augustin, qui souligne « Aime et fais ce que tu veux ». Je crois que cette citation vous va à merveille.
Aime et fais ce que tu veux, et l'autre phrase d'Augustin, la mesure de l'amour est la démesure.
La démesure.
Avec ça, on peut y aller.
Alors allons-y. Un très grand merci, Michel.
Merci à vous.
Merci.